1936, c'était il y a 70 ans, avec le Front Populaire, naissait le sport populaire. L'enjeu est clairement posé par le ministre qui a donné son nom à tant de stades, Léo Lagrange, qui déclarait « Nous devons choisir entre deux conceptions. La première se résume dans le sport spectacle et la pratique restreinte à un nombre relativement petit de privilégiés. Selon la seconde conception, tout en ne négligeant pas le côté spectacle et la création du champion, c'est du côté des grandes masses qu'il faut porter le plus grand effort. » Populaire, le terme est évidemment ambigu. Il désigne aussi bien ce qui émane du peuple que ce qui plaît au plus grand nombre, ce qui s'adresse aux masses, à entendre dans son sens condescendant. Le rapport entre le peuple et les élites est à la fois exacerbé et brouillé en matière sportive. La spéculation croissante, les salaires exorbitants, les droits téléastronomiques, le sponsoring, la corruption, le dopage, auquel on résume parfois à tort le sport professionnel, n'empêche pourtant pas un engouement réel. Alors qu'est-ce qui fait qu'un sport est populaire? C'est notre question du jour. Et pour y répondre, trois invités en studio, on attend encore un quatrième. Mais tout d'abord, Géraldine Catalano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la toute nouvelle rédactrice en chef de l'Équipe Magazine. Et vous avez aussi pigé beaucoup pour l'équipe et écrit sur le sport dans différents journaux. À côté de vous, Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Limoges. Et vous êtes le co-auteur récemment, ou plutôt vous avez dirigé le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, c'était aux publications de la Sorbonne. En face de vous, Alexandre Pedro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef de Pédale. Pédale, c'est le numéro spécial consacré au cyclisme par SoFoot, c'est ça?
C'est ça, l'annuel.
L'annuel.
Avant le Tour de France chaque année.
Et vous écrivez aussi également dans SoFoot, donc vous êtes là pour nous parler à la fois de cyclisme et de football. Et puis plus largement, on va s'interroger sur la pratique sportive, le fait de regarder le sport, la façon dont le sport est couvert par les médias. Mais tout d'abord, on est au lendemain quand même d'une belle victoire de l'équipe de France dans l'Euro 2016. On en parle en général assez peu sur cette antenne. Pourtant, 19 millions de téléspectateurs ont assisté à ce match. Vous l'avez vu où?
Où est-ce que j'étais hier?
Fabien
soir.
Archambault. Vous vous souvenez même plus, c'est que la suite a dû être...
Ah oui, bah j'étais à l'équipe.
Vous étiez à l'équipe.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça donne de voir le match de foot à l'équipe? Vous avez des points de vue informés.
C'était assez divertissant. Ouais, ils ont beaucoup d'humour. Donc on s'est bien amusé.
Géraldine Catalano.
Moi, je n'ai pas vu à l'équipe. J'ai vu avec des amis, tout simplement, et en famille.
C'est la meilleure façon de le faire, Alexandre Pedro.
Moi, je l'ai vu à SoFoot et j'étais un peu minorité parce que je suis supporter du Portugal. Donc dès la mais fin c'était... du match, ils sont retournés vers moi en me disant « dimanche, tu ne seras pas là ».
Voilà. Alors, peut-être on peut poser tout de suite cette question. Une équipe qui gagne, est-ce que c'est comme ça qu'elle devient populaire? Puisque cette équipe de France n'a pas tout de suite été aussi populaire qu'elle ne semble l'être en ce matin de victoire. Qui peut répondre Fabien Archambault, tiens.
C'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Historiquement, oui, le football, l'équipe nationale anglaise devient populaire en Angleterre au sens où elle est suivie par tout le monde à partir de la victoire de 1966, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que les Anglais se désintéressaient totalement de leur équipe nationale et préféraient leurs équipes de club. Même chose pour l'Allemagne, hein. Le football n'était pas un sport très important en Allemagne dans l'après-guerre, et c'est la victoire de 1954 qui fait que on peut être fier de sa patrie, de la nation allemande, et donc là ça s'enclenche. Mais il y a des contre-exemples, hein. Par exemple en Italie, le football dans l'après-guerre est très populaire. On attend beaucoup de l'équipe nationale, mais elle n'a pas de bons résultats jusqu'à la fin des années 1960. Et donc c'est plutôt sous la forme de la déception quand ils perdent contre la Corée du Nord en 1966, où là, ça se passe mal, y compris au Parlement, puisque le gouvernement a failli chuter après cette défaite.
Alexandre Pedro.
En France, on a le contre-exemple de 82, qui était l'équipe la plus populaire. On se souvient plus de la défaite de 82 que de la victoire de 84, la génération Platini. Donc il y a eu tout ce mythe un petit peu des beautiful losers qui étaient très français. Aujourd'hui, on a l'impression que seule la victoire compte et seul celui qui gagne a raison. Parce qu'on est peut-être dans une époque où ce sont les chiffres qui priment. Donc il faut gagner, et c'est valable dans tous les sports. Les sportifs qui ont le droit un petit peu d'attention médiatique en dehors du foot qui écrase tout, c'est ceux qui gagnent. Si vous gagnez pas, ça sera pareil aux Jeux Olympiques. Si vous êtes un athlète français, vous faites quatrième, vous n'avez rien. Si vous avez une médaille d'or, vous avez peut-être un peu de chance d'avoir un écran médiatique.
Géraldine Catalano, c'est la question que vous vous posez, j'imagine, à l'équipe. Comment on fait une, que sur qui mettre l'accent en dehors du foot qui, en effet, comme vient de le remarquer Alexandre Pedro, écrase un petit peu tout, surtout en ces périodes de compétition européenne.
Oui, bien sûr. Pour juste rebondir sur votre première question, c'est vrai qu'il y a une règle d'or aujourd'hui, depuis 98, qui a tout changé. C'est la victoire, en fait. C'est vrai que pour qu'un sport soit populaire, il faut qu'il gagne et il faut qu'il n'alimente pas trop la chronique judiciaire, en fait. On a bien vu la cote de popularité. Des footballeurs qui est très très fragile selon cette chronique judiciaire, justement. Mais c'est vrai que ça dépasse le simple fait de gagner ou non. Il faut aussi que ce sport, je dirais, d'abord, regroupe une certaine élite, paradoxalement, en fait, pour qu'elle touche les masses. Il faut qu'il y ait des héros, il faut qu'il y ait une élite qui fasse rêver. Il faut aussi qu'il y ait une forme de code d'honneur aussi qui permette, justement aux supporters, enfin aux fans de sport, de s'identifier à ces héros presque intouchables. Et puis il faut aussi qu'on puisse y tisser des histoires, en fait. Voilà, il faut qu'il y ait une dimension romanesque dans ces sports. Et évidemment, on n'oublie pas la dimension presque sueur, en fait. Il faut qu'il y ait de la sueur dans ces sports-là, en fait, pour que une fois que ces ingrédients sont réunis, la chimie opère, en fait.
Alors Thibaut de Langeville vient de rentrer dans le studio, il est l'organisateur du Quai 54 et c'est bien qu'il soit là. Pardon, l'un des organisateurs du Quai 54. Et c'est bien que vous soyez là parce que il faut parler de ce tournoi de street basketball auquel peut-être peu de gens ont entendu parler. Je dois avouer que moi-même, c'est un des collaborateurs de l'équipe, Alexandre Jublin, qui m'en a parlé. J'en avais jamais, j'avais jamais vu que ça existait. C'est du 23 au 24 juillet à Paris et c'est le plus grand tournoi de street basket au monde. Alors, puisqu'on parle de pratiques populaires, c'est intéressant parce que voilà, un sport qui peut-être peu médiatisé, le basketball est médiatisé, mais cette pratique dans la rue l'est peut-être un peu moins, et pourtant c'est celle dont s'emparent finalement tous ceux qui ont une pratique amateur de ce sport. Évidemment, on peut jouer en club, mais on peut aussi jouer sur les différents playgrounds, sur les différents terrains qui sont disséminés un petit peu partout, souvent en ville.
On va dire que le streetball, c'est le street basketball, c'est le terrain d'accès au basketball amateur, au basketball professionnel. Tous les grands joueurs de basketball, quels qu'ils soient, qui jouent en NBA, en Ligue internationale, ils ont tous commencé sur un terrain de quartier en bas de chez eux, dans une ville. Il y en a finalement très peu qui ont commencé dans un gymnase rural. Il y en a quand même, y compris des grands champions français. Mais c'est vrai que la pratique du basket playground, street basketball, basket de rue, comme on peut l'appeler, est très répandue. Il n'y a pas de fédération. Donc c'est difficile de recenser le nombre de pratiquants, mais par exemple dans une ville comme New York, qui est la ville où il y a le plus grand nombre de terrains de basket au mètre carré, qui était une décision assez révélatrice, c'était une décision et politique politique, sociale, architecturale, de se dire que dans cet exemple de mégalopole, le sport qui pouvait le plus facilement être pratiqué et être vecteur d'échanges sociaux favorables, d'échanges culturels, c'était le basketball. Là où par exemple nous en France c'est la table de ping-pong en bas de la cité, et à défaut des grands stades, mais dans ce genre de concentration urbaine, c'est assez révélateur. Moi je suis par ailleurs j'ai travaillé sur la coproduction d'un film documentaire qui s'appelle Doing It in the Park, qui a d'ailleurs été diffusé sur l'antenne de l'équipe 21, et qui en fait étudie les racines du basketball, et donc plus particulièrement en l'occurrence toujours du même sujet, du street basketball. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'en fait l'inventeur du basketball, qui est un monsieur éminent qui s'appelle Dr. James Naismith, a dit quand le basketball est devenu un sport olympique, et il y a des déclarations qui sont documentées, qui sont connues, où il explique qu'il n'imaginait pas que c'était un sport qui était fait pour être coaché. Pour lui, il s'en félicitait quand c'est devenu un sport olympique en 1936, je crois. Il disait qu'en fait, il avait inventé ce jeu plus comme une activité récréative pour que des personnes puissent y jouer librement. C'était un peu l'idée générale. Et donc le street basketball, on va dire, dans ce sens, c'est l'expression la plus pure de ce que c'est que le basketball.
Beaucoup de choses dans ce que vient de dire Thibaut de Langeville, Fabien Archambault. Cette notion à la fois de lien entre une pratique de rue et une pratique, on va dire, d'abord amateur, et puis pour aller vers une pratique professionnelle. Et aussi cette notion, voilà, de coaching, de passer à une autre étape, de passer de la pratique, comment dire, de passer du loisir au sport.
Alors le basket est un exemple qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez justement sur le qu'est-ce que c'est qu'un sport populaire aujourd'hui. C'est que le basket est un des plus grands sports en France. C'est-à-dire que bon, il y a les pratiquants de la fédération, donc par exemple chez les femmes, hein, c'est le premier sport collectif féminin. Mais il y a tous ceux dont vous parlez qui ne sont pas inscrits à la fédération. Et c'est le basket est médiatisé, mais pas tant que ça. C'est le sport collectif français
peut-être
le plus important.
Médiatisé récemment parce que l'équipe de France de basket gagne, parce qu'il y a Tony Parker, évidemment, ce joueur qui joue en
mais
NBA.
Mais c'est impossible de regarder des matchs de championnat. Enfin, il faut être passionné pour trouver des images, etc. On n'a pas, disons, le basket n'a pas une présence médiatique comparativement au rugby, par exemple, qui est finalement pratiqué par très peu de gens. Et qui a une couverture médiatique qui est très impressionnante. C'est par rapport à ce que vous disiez, hein, c'est le sport populaire, il y a celui qui permet de représenter la nation et qui compte pour qu'une nation existe dans le concert symbolique international que sont les grandes compétitions sportives, et la réalité d'une société et de pratiques dont elle s'empare, mais qui n'accède pas à une reconnaissance institutionnelle.
Géraldine Catalano, sur ce hiatus finalement entre pratique et représentation?
Bah, c'est tout le travail de journaux comme l'Équipe Magazine, d'arbitrer justement entre des pratiques populaires mais peu présentes à la télévision notamment, et puis les sports qui écrasent un peu tout comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Chez nous par exemple, c'est vrai que le basket est très présent, peut-être parce que on s'autorise quelques pas de côté par rapport au quotidien par exemple, qui est dans l'actu très 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 chaude et dominante, mais le sport, je dirais que le basket est le deuxième sport le plus présent dans nos pages après le football, en fait, qui est évidemment dominant. Il y a quasiment un sujet foot par semaine, et je dirais qu'on consacre une couve par mois au football.
Au basket plutôt.
Une couve par mois
au football, d'accord.
Un sujet par mois au football, mais le deuxième sport le plus représenté dans nos pages, c'est le basket et ensuite le rugby.
Pas assez le street basketball.
D'accord, je le note.
Bientôt peut-être, Thibault Langeville. Alexandre Pedro, vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit.
Il y a les sports, les sports canapés et les sports qu'on pratique. Le vélo, le foot sont des sports qu'on pratique, mais c'est des sports canapés. C'est des sports où on va s'asseoir, on va regarder. Pomp Pédale est un magazine qu'on a défini comme un magazine de cyclisme canapé. On n'est pas du tout un magazine pour les pratiquants. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de quel est le meilleur pédalier, quelle est la meilleure marque de roue. On est vraiment dans l'accompagnement des gens qui ont consommé du vélo devant leur télé. Et donc, voilà, il y a une vraie distinction entre les gens qui pratiquent du sport et les gens qui en font. Et les gens qui pratiquent du sport ne sont pas toujours les gens qui consomment le plus de sport. C'est assez marrant à voir. Et il y a aussi, par exemple, sur le basket et le rugby, c'est très intéressant, comme le basket était le sport collectif numéro 2 dans les années 80-90. Il y avait des matchs le samedi après-midi sur Antenne 2. Je suis assez vieux pour avoir connu ça. Et le rugby est passé devant. Parce que le basket s'est mal vendu, a fait des mauvais deals, en passant par exemple sur TPS, sur des chaînes câblées, et le rugby avait un meilleur lobby. Notamment, il y a beaucoup de directeurs de rédaction qui sont fans de rugby, ou de marques importantes. Le rugby place ses pions mieux que le basket. Et c'est là où on voit un petit peu les élites à l'œuvre, et les élites sont plus présentes dans le rugby que dans le basket.
Il y a un autre facteur
Thibault
aussi, qui j'abonde dans ce sens, mais il y a un autre facteur aussi qui est non négligeable, au niveau en tout cas des clubs, etc., quoi, qui est que quand le rugby joue, c'est Toulouse qui joue, quand le basket joue, c'est
Chalon.
C'est Chalon. Donc ça, c'est une décision qui a été, je pense, pour le basket français en tout cas, assez fatale à la médiatisation du basket français, ce qui est regrettable parce que au niveau, par exemple, des praticiens, de la qualité des athlètes et de cet univers-là, le basket français qui on va dire d'un point de vue grand public est considéré comme ça doit être chiant, ou je sais pas vraiment ce que c'est, ou qui joue contre qui, où est Tony Parker, quand est-ce que ça va devenir intéressant. En fait, en France, la France a produit la France est le deuxième pays le plus représenté en NBA.
Oui, là, c'était un record de joueurs français recrutés dans des équipes draftées, comme on
depuis,
dit, dans des équipes
et depuis, de depuis le phénomène de Tony Parker et la génération qui sont suisses, c'est récurrent à la draft, c'est quelque chose qu'on vérifie. Donc, ça veut dire qu'il y a un très grand talent de basketball français, qui sont par ailleurs des gens qui pourraient évidemment, hypothétiquement, évoluer dans des clubs français. Et donc, ce sont pas évidemment les gens qui portent haut les couleurs de la France dans des compétitions internationales. Mais c'est révélateur aussi qu'il y a une pratique forte, et une culture qui est assez forte autour de ça.
Vous avez dit culture, Thibault Langeville, c'est intéressant parce que c'est vrai que le basketball de rue, le street basket, véhicule avec lui toute une culture, une culture de la rue. Il y a les images du hip-hop, de cette culture qui accompagne. Et pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que ça vaut aussi, il y a une étude d'un sociologue, Stéphane Beau, que vous connaissez bien, Fabien Archambault, sur les rapports des Français à leur équipe de France. Il y a aussi cette notion de classe populaire, classe populaire, classe dangereuse en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes des quartiers, comme on le dit de manière un peu impropre et de manière un peu maladroite. Et il y a ça dans le basket. Ça représente des jeunes des quartiers. C'est peut-être ça aussi qui est un frein à la médiatisation et à tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est fort possible. Effectivement, dans l'ADN du street basketball, c'est la culture qui va avec le street basketball est une culture de rue, est très empreinte de culture hip-hop. Nous-mêmes, ça fait partie de notre culture. J'ai envie de dire, les organisateurs du K54, ce qu'on met en scène, il y a beaucoup de musique même d'ailleurs dans le déroulé de la manifestation certaines de nos équipes de basket sont en fait les équipes officieuses d'un groupe de rap ou d'un label de rap, ou sont des entourages qui sont des univers qui sont vraiment très connectés et ce qu'on cultive. J'ai même envie de dire que limite on s'est presque même appuyé sur ça pour moi il se trouve j'ai un background, je travaille beaucoup dans le milieu de la musique, dans le milieu du rap, etc. Donc on va dire encouragé ces connexions là pour connecter avec notre audience.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Avec cette question ce soir, qu'est-ce qu'un sport populaire? Quatre invités pour en discuter, Géraldine Catalano, Fabien Archambault, Alexandre Pedro et Thibault de Langeville. Alors on a beaucoup parlé de basket et street basket depuis le début de l'émission. C'est aussi parce que je trouve que c'est intéressant comme exemple d'un sport aujourd'hui qui est populaire dans le sens où il est joué dans les classes populaires, pour le dire comme ça, et en même temps qui n'est pas populaire parce qu'il n'est pas connu. Comment est-ce que, Fabien Archambault, est-ce qu'on arrive à savoir comment est-ce qu'on a cette bascule? Comment ça s'est fait pour le vélo? Comment est-ce que ça s'est fait pour le football? Comment est-ce que ça se fait que la boxe, qui a été l'un des sports les plus populaires de l'histoire, aujourd'hui l'est quand même beaucoup moins? Est-ce qu'on arrive à l'analyser?
Alors, on peut retracer historiquement comment on passe. Le plus important, c'est dans le champ sportif, quel est le premier sport qui a occupé la place. Ça vaut pour le basket. C'est le basket, on se démocratise après la Première Guerre mondiale. C'est les soldats américains. Après 1917, qui restent en France, qui fondent les premiers clubs. Et la place est déjà prise par le football. Donc c'est difficile après de se faire une place au soleil une fois que, quand on essaye de rentrer là-dedans. Il faut une base de pratiquants qui, en gros, donne la base sociale sur laquelle pourra prospérer un sport. Par exemple, c'est très intéressant, c'est pour le vélo. Donc la France est un pays rural, parce qu'on a eu une industrialisation qui était différente de l'Angleterre ou de l'Allemagne. C'était le moyen de locomotion des paysans. Donc, en gros, il y avait une pratique du vélo et c'était des compétitions qui venaient. C'est-à-dire qu'on passe la compétition, elle passe en bas de chez soi. Ça ne suffit pas pour en faire un sport qui soit un sport national, qui soit reconnu.
Alors qu'est-ce qu'il faut?
Alors il faut passer par l'affirmation nationale, en fait, la grandeur de la patrie.
Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut que le sport représente la nation.
Alors par exemple sur le Tour de France, on a l'idée que jusque dans les années 60, ça a été le grand sport populaire, Roland Barthes en a parlé, etc., les géants de la route. Dans les années 20, au début des années 20, le Tour de France est en train de péricliter. C'est-à-dire que
les Belges gagnent trop.
Les Belges gagnent trop. Et surtout, en fait, c'est cette organisation qui est très marchande, puisque le Tour de France a été créé par le journal L'Auto, qui est devenue l'équipe. Voilà, pour faire, en gros, pour vendre du papier. Ces équipes, en fait, qui sont des équipes commerciales, ça n'intéresse plus le public. Et c'est quand le Tour de France est réorganisé en équipe nationale, c'est un historien, Fabien Connor, qui a écrit un livre là-dessus, que là, ça marche. C'est qu'à un moment donné, dans ces communautés qui sont des communautés politiques qui fonctionnent, dans laquelle tout le monde se reconnaît, bah, quand il y a l'équipe de France qui bat l'équipe d'Italie, ça devient un sport qui peut être interprétable dans, par les élites et qui peuvent produire un discours sur la nation.
Mais Alexandre Pedro, aujourd'hui, c'est des marques, les équipes, c'est la FDJ.
Oui, c'est revenu des marques, mais ça date, je crois, du milieu des années 60.
Fin des années 60,
ouais. C'est l'époque d'Anquetil. Mais après, cette reconnaissance nationale, elle s'est faite en France à travers les champions. Il y a eu Thévenet, il y a eu Hinault, il y a eu Fignon. Et là, le début du déclin relatif du vélo vient aussi du fait qu'il n'y a pas eu de vainqueur français depuis 1985. Donc le vélo reste, c'est pas le vélo qui est populaire en France, c'est le Tour de France. Et le Tour de France, on est plus sur un spectacle, quasiment un folklore. Parfois, quand je regardais les étapes du Tour de France cette semaine, j'avais l'impression de voir un reportage patrimonial.
Des racines et des ailes.
Bon, les étapes n'étaient pas passionnantes, mais il y a un peu de ça. C'est une vraie volonté de affirmer de France Télévisions de proposer ça. Parce que la vraie culture vélo, les personnes comme moi qui vont regarder les classiques belges du mois de février, de mars, on est ultra minoritaire. Donc on essaie de parler au plus grand nombre. Et pour aller au plus grand nombre, et voilà, on montre des châteaux Qatar, on montre la beauté de la France parce qu'on n'a pas le vainqueur du Tour de France. Si demain, Romain Bardet prend le maillot jaune et va à Paris jusqu'à avec, peut-être que là, on va réenclencher quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, le vélo est devenu plus pour moi une sorte de folklore national que vraiment un sport national comme il a été par le passé.
Géraldine Catalano.
Oui, parfois le basculement en fait peut être aidé d'une petite volonté politique en fait. Il y a deux exemples qui sont, enfin il y a un exemple en l'occurrence qui est assez intéressant, qui est celui du tennis. Dans les années 70, en fait, ça restait quand même le sport
élitiste,
très élitiste, voilà, où il fallait porter du Lacoste et on descendait des mousquetaires. Et puis il y a eu cette volonté de construire des terrains un peu partout en France. Suivi évidemment de la victoire de Yannick Noah qui a énormément contribué à la popularité du sport. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le sport, le nombre de licenciés stagne un petit peu. Donc c'est intéressant en fait de voir que par manque de volonté parfois et par manque de personnages très forts qui transcendent un tout petit peu les barrières, Yannick Noah c'est le fils d'un footballeur, donc ça montre bien qu'on pouvait aussi devenir tennisman.
Et son fils est un très grand basketteur. Très grand par la taille et par le talent. Oui.
Et ce qui se passe en ce moment, c'est que le nombre de licenciés stagne un petit peu. Et pour quelle raison? Parce que nos tennismen ne gagnent pas tant que ça. Ils habitent assez loin. Ils ont un rapport aux médias quand même qui est un petit peu compliqué parfois. Ils ronchonnent un petit peu. Et ça joue aussi dans la popularité d'un sport.
Vous vouliez réagir Fabien Archambault.
Ah oui, non, c'était pour donner un autre exemple qui allait dans le sens de ce que disait Géraldine, qui est la différence entre sport populaire, sport le plus pratiqué, et le sport qui permet, par les victoires, de s'affirmer. C'était juste l'exemple du Pakistan. C'est-à-dire le grand sport populaire, c'est-à-dire celui que tout le monde pratique, c'est le cricket. Mais il y a des traditions qui étaient dues à leur histoire, qui faisaient que les élites s'intéressaient au hockey sur gazon, où le Pakistan était bon. Ils perdent la finale olympique en 1972 et ça se passe très mal, puisque les Pakistanais agressent l'arbitre face à l'Allemagne. Et du coup, il y a eu un basculement, mais quasiment du jour au lendemain, où les élites ont décidé, bon, on oublie le hockey sur gazon, on met tout sur le cricket.
Ça montre la dimension très très politique du sport et aussi de cette notion de popularité d'un sport. Je parlais de Léo Lagrange en commençant, si on parle du basketball. Évidemment, la passion de Barack Obama pour le basket n'est pas pour rien. Il paraît qu'il n'a pas voulu descendre de Air Force One dernièrement, parce qu'il y avait le 7e match de la finale de la NBA. Enfin, vous voyez, c'est quand même...
Il y a même une déclaration qui est parue qui dit qu'il est possible, je crois que c'est son secrétariat qui a dit qu'il était possible que...
Qu'il coach une équipe.
Qui possède une équipe, qui devienne le premier ex-président à être GM d'une équipe.
Et alors, comment expliquer que cette dimension politique, le fait que aujourd'hui il y a la notion d'argent, les droits télé, les salaires, on nous en parle beaucoup. Il y a évidemment dans le vélo, désolé de le rappeler, Alexandre Pedro, le dopage, évidemment qui pose
partie
des questions.
Du folklore qu'on,
même
qu'on,
le handball a été touché, oui. Même le handball qu'on pensait immaculé a été touché par des questions de paris truqués. Et pourtant, ce sont des sports qui restent populaires. Est-ce qu'on arrive à se l'expliquer, Thibault Longeville, vous, votre sport, le basket, reste un petit peu encore, en tout cas de ce côté-ci, même si je crois que les droits télé de la NBA, c'est 19 milliards sur 9 ans.
Enfin, je connais complètement, pas le chiffre,
complètement démentiel.
Le sportif français le mieux payé va être Nicolas Batum, qui est un basketteur avec un contrat de 120 millions sur 5 ans.
Comment est-ce que vous regardez tout ça, justement, ce lien entre finalement une dimension qui n'est plus du tout populaire, l'argent, etc., et le fait que ces sports restent très, très appréciés?
Je sais pas dans le basket jouit, alors il y a vraiment une perception du basket qui est très différente aux États-Unis et en Chine, où c'est deux sports qui sont extrêmement populaires. Donc en Chine c'est le sport numéro un, et aux États-Unis c'est le sport du numéro deux derrière le football américain au niveau de ce qui est regardé à la télévision. En France c'est très différent, mais sûr que le basket est très loin en audience pour ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les chaînes qui le diffusent, quel est le spectacle véritablement qui a regardé. Donc j'ai envie de dire qu'en France en tout cas l'image du basketball n'est pas ternie par ce qui peut ternir par exemple l'image du football sans vraiment faire du mal à sa popularité. Mais l'argent tout puissant, l'argent au centre de la pratique sportive, l'argent motivant le joueur à jouer dans telle équipe, c'est une pratique qui existe clairement en NBA, où on a déploré que moi je suis de la génération assez vieille pour avoir vu jouer les équipes des années 90, et donc des gens qui commençaient dans une équipe et restaient toute leur carrière à peu de choses près dans cette équipe, et donc faisaient la légende de la ville qui représentait où aujourd'hui chaque saison les grands joueurs changent, ou toutes les trois saisons en tout cas dépendant de leur contrat changent d'équipe pour aller au plus offrant ou à celui qui rapporte le plus de chances de la victoire.
Et ça ne touche pas la mythologie.
Ça, d'un point de vue, alors le point de vue que j'expose ici, un point de vue de passionnés français qui suivent le basket avec beaucoup de passion, donc ça écorne un peu pour ceux qui, par exemple, de mon âge, donc des très mauvais pratiquants, très vieux, ont vu la grandeur de la légende des Bulls, de la légende des Pistons et de ce type d'équipe, mais néanmoins d'autres mythes naissent de ça, comme par exemple le LeBron James
individuel plutôt. L'avantage, voilà, les LeBron James, c'est un mythe individuel, ça raconte quelque chose des États-Unis. Stephen Curry, qui est fils d'un joueur, qui est métis, ça raconte quelque chose des États-Unis.
Mais
on est
sur des mythes.
On est plus sur des mythes individuels. Et après.
Et d'ailleurs, on est sur une pratique qui est globalement du basket aux États-Unis, qui évolue plus sur une pratique pour un sport collectif où il y a un très grand rôle, une très grande place donnée à l'individu. Et
parce qu'il n'y a que 5 joueurs, donc forcément
voilà. Et alors sur le vélo, évidemment, les affaires de dopage ont fait du mal, mais malgré tout...
Elles ont failli tuer le vélo, et pas loin de tuer le Tour de France. Le vélo revient de loin, il aura toujours un peu l'opprobre sur lui. Son mode de défense, c'est de dire qu'il y a du dopage dans les autres sports. Mais voilà, le péché original, il est un peu sur le vélo, donc... Mais ta question sur cette dichotomie entre l'argent roi... et les valeurs qu'on attribue généralement au sport éducatif, tout ça, je crois que les gens sont pas dupes. Aujourd'hui, le sport fait partie de l'entertainment. Pour moi, Cristiano Ronaldo, il est l'équivalent d'un Jay-Z, d'une Rihanna. Il est un personnage global, il est une star mondiale, il a quasiment plus de followers sur Twitter, sur Facebook qu'eux. Voilà, donc on est sur des personnages mondialisés, et c'est avant tout un business et un entertainment.
Et puis on aime bien détester aussi, Fabien Archambault, on aime bien détester les joueurs de foot, on aime bien détester les sportifs.
Surtout en France.
Ceux qui sont très payés, c'est agréable de les détester, effectivement. Surtout, c'est une culture de les détester.
Mais ils ne sont pas tant payés que ça, hein. Vous avez cité les chiffres du sport professionnel américain. Être payé en France, enfin bon, il y a le Qatar avec le PSG depuis qu'il a été repris par le Qatar, mais ça c'est un symptôme du rapport de la société française au sport, où en gros ça n'est toujours pas une pratique légitime, c'est-à-dire que les Italiens, les Anglais ou les Espagnols, à partir du moment où le sport est professionnel, il faut les payer à leur juste mesure. Il n'y a qu'en France où on fait des débats de société là-dessus, mais on s'interroge jamais sur le salaire des grands patrons. Enfin, si, on peut le faire aussi. Mais donc, on s'interroge sur le salaire des footballeurs, montre qu'il y a un déficit de légitimité qui est une vraie exception française.
Charline Catalano, comment est-ce qu'on arbitre quand on est notamment rédactrice en chef d'un, ce que vous allez être, du magazine L'Équipe, ou quand on est journaliste, entre faire un papier, par exemple, sur une affaire judiciaire ou une affaire de dopage, et finalement promouvoir, parce que ce qui est une passion, je pense, pour tous ceux qui sont autour de la table, qui ont décidé de parler de sport, voilà, promouvoir ce qu'on estime être le fondement du sport, voilà, sa morale, son idée, la beauté du geste, la beauté du jeu.
C'est un arbitrage entre la raison et le cœur, en quelque sorte. On peut couvrir les deux, on essaie de le faire, mais c'est vrai qu'il y a des moments d'abandon qui sont beaux à vivre aussi journalistiquement et pour le lecteur. Je pense que si Cristiano Ronaldo se résumait à son image, je pense pas qu'il aurait l'influence qu'il a aujourd'hui.
Pas du tout, oui.
C'est aussi parce que il nous a offert un but magnifique en demi-finale qu'il est ce qu'il est.
Il incarne un pays carrément. Il est le Portugais le plus sale du monde.
Bien sûr.
En plus, vous êtes supporter du Portugal.
Oui, il incarne un pays, c'est quasiment.
C'est le plus beau Portugais du monde.
C'est-à-dire que personne. C'est impossible de citer un Portugais célèbre. Si vous demandez aux gens dans la rue, ils ne connaissent pas le président de la République, ils ne connaissent pas un écrivain, ils ne connaissent pas un cinéaste, ils ne connaissent pas Cristiano Ronaldo. C'est là où le sport prend des proportions extraordinaires. Vous allez en Afrique, on ne vous parle pas de François Hollande ou Jacques Chirac, on vous parle de Zidane. C'est là où c'est assez incroyable.
Oui, oui.
Alors c'est vrai qu'on a vu récemment aussi le sport évoluer, même les règles de sport évoluer pour renforcer cette dimension populaire. Je pense au rugby par exemple, qui est un sport qui a vu ses règles, qui pouvaient être un peu ennuyeux parfois à regarder il y a encore quelques années, et qui a vu ses règles évoluer pour le jeu plus fluide, plus rapide, etc. Qu'est-ce que ça dit finalement de la pratique sportive quand les règles peuvent évoluer parce que le public, la popularité en dépend? Vous qui suivez le rugby, Alexandre Pedro, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors le rugby a essayé de faire évoluer ça, et que c'est très compliqué parce que ça change chaque année et c'est pas toujours très pertinent. Mais l'idée, c'est de rendre le sport plus télégénique. Parce que quand vous passez à la télé, vous avez des droits de télé, et avec les droits de télé, vous payez vos joueurs. Le volley, par exemple, a changé son mode de comptabilité. Ils sont passés de 15 à 25 pour que les matchs soient plus rapides. Parce qu'avant, ça pouvait durer 3-4 heures. Maintenant, on sait que ça durera 1h45, 2 heures maximum. Donc les sports s'adaptent à la télé. Il faut les rendre télégéniques. Un sport qui n'est pas télégénique, ça arrive pour certains
populaire.
Sports, ne peut pas être populaire. Et par exemple, pourquoi le ski, qui est un sport qui peut être populaire parfois en France, est plutôt confiné sur Eurosport, parce qu'il y a les aléas météo, donc une chaîne grand public, si la descente est annulée 3 fois de suite, c'est compliqué. Donc voilà, le sport existe d'abord par la télé.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne aussi à cette définition de populaire qui est plus proche du peuple, et de ce rapport finalement entre élite et peuple autour du sport. C'est-à-dire, on a vu le foot génère aussi une grande littérature, on aime bien raconter des histoires, il y a des écrivains qui s'emparent du sport, du foot, enfin le je pense au vélo avec Anquetil tout seul de Paul Fournel il y a encore pas longtemps, qui est un très beau roman sur le vélo. Il y a la revue des sports, enfin voilà, il y a les revues SoFoot SoFoot Pédale qui ont du sport de canapé, mais c'est aussi du sport de réflexion, enfin voilà, une approche réflexive.
Et Camus adorait
sur le
foot,
sport,
par
oui,
exemple.
Alors c'est vrai qu'on cite toujours Camus.
C'est toujours Camus aujourd'hui,
c'est vrai. Et justement, est-ce qu'il y a dans cette approche intellectuelle, il n'y a pas dans cette approche intellectuelle du sport, malgré tout, je me tourne vers vous, Fabien Archambault, une certaine façon finalement aussi d'essayer d'abolir un peu artificiellement des barrières, voilà, entre ce qu'on appelle les élites et ce qu'on appelle le peuple?
Dans le domaine des goûts, enfin des pratiques culturelles, il y a forcément des distinctions entre les élites et les milieux qui sont plus populaires. Enfin, ce que Bourdieu a très bien décrit, des phénomènes de distinction et qui sont en permanence, enfin qui jouent en permanence, à la fois chronologiquement et géographiquement. À mon avis, il y a un sens de populaire qui a disparu. Et après, il faudrait s'interroger sur est-ce que toute cette profusion de vous avez parlé de toutes ces revues, etc., ne viennent pas de la disparition de ce troisième sens de populaire qui était le sens politique. C'est-à-dire que le sport populaire, donc l'idée qu'il fallait faire du sport, et donc qui n'était pas gagné, hein, qui est le propre des sociétés industrielles, avec l'augmentation du temps libre, etc. Donc le droit au sport, ça a été...
C'est aussi une vertu morale du sport. Alors, c'est peut-être ça qui rentre en conflit avec ce qu'on a dit jusqu'à présent.
C'était une vertu morale, mais c'était surtout l'idée que la catégorie populaire était politiquement construite. Et qu'il fallait échapper au sport professionnel, par exemple. Il fallait que ce soit une pratique qui soit strictement amateur. On est quand même, depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, le sport professionnel a gagné. C'est-à-dire que le modèle sportif professionnel a gagné. Les Jeux Olympiques sont devenus professionnels. Et donc, finalement, il y a tout... et c'était quand même des groupes sociaux qui étaient...
C'est la faute de la Dream Team, d'ailleurs. Basketball.
Ça avait commencé avant, en fait, dans les années 70. Donc, en fait, est-ce qu'il reste pas pour, en gros, toutes ces classes moyennes intellectuelles, en gros, les enseignants, etc., qui pratiquaient le sport et qui n'en parlaient pas forcément, alors que ce sport populaire a implosé politiquement? Est-ce qu'il n'y a pas une marque de la nostalgie de cet âge-là,
avec San Pedro ?
Ah, il y a beaucoup de nostalgie. Il suffit de voir le battage médiatique qu'il y a eu autour de France-Allemagne, enfin France-RFA 82. On a l'impression que c'est un peu une génération de quinquades qui s'accroche un petit peu à ses souvenirs de jeunesse. Et nous, les trentenaires, les vingtenaires, on a envie de dire, bon, on a envie de passer à autre chose. Et j'ai eu beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Donc voilà, on est un peu dans beaucoup de revues, ou parfois chez les intellectuels, un petit peu dans la Madeleine de Proust, sur ce qu'évoque le sport, le vélo, le Tour de France, sur Destination. On est souvent dans ce registre un peu nostalgique. Ce qui est plus compliqué, c'est de construire le sport de demain. Qu'est-ce que veut dire le sport aujourd'hui? Comment il sera demain? C'est là où peut-être qu'on attend les intellectuels, et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une offre vraiment très pertinente à ce niveau-là. Ça peut être aussi notre faute. On est peut-être dans le commentaire, on a du mal à être dans la projection et dans une critique un petit peu constructive du sport.
Géraldine Catalano, j'ai pu lire en préparant cette émission, justement, le profil type des journalistes qui s'occupent du sport avait plutôt évolué qu'on était aujourd'hui dans un recrutement avec des journalistes, qui ont, un fort capital culturel. Vous le constatez?
Surtout à l'équipe.
Surtout à l'équipe.
Plus que sur foot.
C'est contre-intuitif ce que vous nous dites Alexandre Pedro. Géraldine Catalano.
Non, je ne suis pas sûre d'avoir un avis sur ce que vous. Enfin, une réponse à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que la pratique se féminise un petit peu. Ça, c'est vrai.
On n'a pas parlé de ça. C'est vrai, du hiatus qu'il y a aussi dans cette notion de populaire entre les sports féminins, les sports masculins. Et évidemment aussi la féminisation des têtes d'affiches sportives. Des commentateurs ou commentatrices
La télévision, par exemple, c'est une évidence. C'était un sujet il y a encore, je dirais, 5 ou 10 ans. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. On voit que les journalistes sportifs féminins... s'en sort très bien.
C'est difficile à dire.
La vraie révolution, ce sera quand une femme commentera un match d'équipe de France ou du 15 de France, et pas seulement sera en bas du terrain pour recueillir les...
C'est vrai, mais c'est le cas, je sais pas si j'ai oublié son nom, mais il y a une commentatrice sur l'équipe 21, justement, qui commente en direct les matchs sans qu'on puisse voir les images, qui est quand même une pratique totalement assez folle, en fait, mais qu'elle réussit très très bien, donc je suis sûre que ça viendra.
Fabien Archambault, sur la question de la féminisation ou non, et de la façon dont ça peut participer aussi à cette notion de sport populaire.
C'est un des principaux indices d'une démocratisation réussie du sport. C'est-à-dire que les femmes ont toujours fait du sport, mais c'est normal maintenant qu'elles arrivent à des fonctions dirigeantes, on va dire.
Alors Thibault Langille, je vous pose même pas la question pour le basket, parce qu'en France, le basket féminin, l'équipe féminine de basket est une équipe importante, et on l'attend évidemment au JO de Rio qui arrive, comme l'équipe masculine. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Géraldine Catalano, Fabien Archambault, Alexandre Pedro, donc Pédale étant kiosque, Thibault Langille, Quai 54, cette grande manifestation autour du basketball, du street basket, c'est très bientôt. Vous me rappelez les dates?
23 et 24. 15 juillet, jours.
Voilà, dans 15 jours. Merci également à toute l'équipe du Grain à Moudre d'été, Alexandra Gège, Laurence Genepin, Marie Dalquier et Tanguy Omri. À la réalisation, c'était Véronique Villa. À la technique, Bruno Gagnère Fontanil. Le Grain à Moudre, c'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.
C'est l'été sur France Culture.
Radio France présente le Concert de Paris.